Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est un plaisir de recevoir Charles Ouimet, qui est un racefluencer. Okay, vous allez voir, je lui demande d'expliquer c'est quoi le terme racefluencer, qui est un terme qui s'est lui-même apposé, qui est en fait un mix entre un athlète vraiment de haut niveau en vélo de route et vélo de gravel, mais aussi un influenceur dans le même domaine. C'est vraiment intéressant de parler à Charles de ces deux aspects-là, puis comment conjointement on peut les mixer pour gagner sa vie, en fait. Ça revient à la question qu'on avait posée avec David Gagnon, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le concept d'athlète professionnel. C'est quoi un athlète professionnel? Un athlète professionnel, c'est pas nécessairement un athlète qui est le meilleur au monde, c'est un athlète qui réussit de faire du sport sa profession. Et Charles, c'est ça qu'il a fait. Il nous explique ses débuts sur YouTube, comment tout ça a commencé, comment est-ce qu'il a réussi à se créer un auditoire, comment il a réussi à se développer une crédibilité à même le monde du vélo. Cette crédibilité-là qui, éventuellement, lui a permis de pouvoir vendre des produits, de pouvoir faire rayonner des marques de vélo et tout ça, évidemment, en générant des revenus. Puis, évidemment, parler de générer des revenus dans le sport, parfois, ça peut être tabou. Par contre, moi, je trouve ça absolument imbécile que ce soit parce que chapeau à n'importe qui réussit à se monétiser, à monétiser leur plateforme et à pouvoir vivre de leur sport. Moi, je vous l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit en fait plusieurs fois sur le podcast, si on m'avait donné 20 000 $ par année juste pour payer ma bouffe puis ma maison pour continuer à faire de la natation, je serais encore en train d'en faire. J'en aurais fait jusqu'à ce qu'on m'enlève ce montant-là. Donc, chapeau à n'importe qui est capable de monétiser son sport. Bref, Charles, c'est vraiment super intéressant comme conversation. On parle de ça, mais on parle aussi plus spécifiquement du vélo, parce qu'il a fait une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle Quest for Speed, où est-ce qu'il va essayer, à travers ses vidéos, vous irez voir ça sur sa chaîne YouTube, où est-ce qu'il va essayer de maximiser sa vitesse sur son vélo, que ce soit par ses méthodes d'entraînement. Il a fait un test de lactate, entre autres, avec David Yecker, qui est déjà venu sur le podcast plusieurs fois, en changeant sa position en allant dans un vélodrome pour tester la position d'aérodynamisme, en changeant ses vêtements pour voir quels vêtements étaient les plus aérodynamiques, en regardant tout son matériel sur le vélo, tout le gear comme tel, comment maximiser sa vitesse. Si ça vous intéresse, cette conversation-ci, évidemment, allez voir la chaîne YouTube de Charles, suivez-le sur les réseaux sociaux, tout ça va être dans la description du podcast. Le podcast de cette semaine est présenté par Upika. Upika, c'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance. Le premier produit, le Upika Endurance, est un tout-en-un pour pendant votre performance. Vous allez voir, on en parle avec Charles de l'importance de la nutrition dans les sports d'endurance, à quel point on est sous-alimenté souvent et à quel point la sous-alimentation peut mener à une récupération plus lente, des performances diminuées, alors que si vous restez on top de votre nutrition, bien, vous allez être capable de recommencer jour après jour et pendant l'effort, vous allez être capable de fournir un effort meilleur qui vous permette d'avoir des meilleurs résultats. Dans ça, c'est tout ce que vous avez besoin. 25 g de glucides avec 16 g de dextrine cyclique, qui est un glucide qui quitte l'estomac rapidement, donc à vidange gastrique rapide, donc ça ne donne pas mal au cœur, ça ne reste pas longtemps dans le ventre. On a des électrolytes, 300 mg de sodium pour la rétention d'eau, les électrolytes pour remplir ceux que vous perdez à l'effort. On a de la taurine pour la création d'énergie, la thermorégulation, vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur vos muscles lors d'efforts de longue durée. Bref, tout ça et encore plus, on a la formule Endurance qui est celle que je viens de vous dire. On a la Endurance Plus qui est la même avec 100 mg de caféine. Tout ça dans 5 saveurs. Utilisez le code UPICAPOD2023 pour sauver 10% sur votre première commande au upica.ca. Allez voir ça. Puis restez à l'affût parce qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent prochainement. Je touche du bois là parce que c'est toujours plus long qu'on pense. Mais on a reçu notre numéro de produit de santé naturelle de Santé Canada pour notre prochain produit. Ça s'en vient imminemment. J'oserais même dire d'ici un mois. Mais encore là, comme je vous dis, tout peut changer. C'est très instable comme milieu. Bref, sans plus attendre, je vous laisse avec cette conversation avec Charles Ouimet. Salut, man.
Salut, PH.
Merci d'être là aujourd'hui.
Ben, merci de m'inviter, ça me fait plaisir.
Yes. Hey, première question que je voulais te poser, j'ai pas planifié beaucoup de questions parce que je pense qu'on va juste y aller avec le flow, mais la première question que je voulais te poser, c'est comment je te présente?
Ah, boy.
C'est quoi? Non, mais comment toi tu te présentes au monde? C'est quoi tu fais, tu sais? Parce que je vois le racefluencer qui existe. Ouais. C'est ça? C'est quoi? Comment tu te présentes?
Bon, c'est sûr, le terme racefluencer, c'est un terme que je me suis approprié. À un moment donné, quelqu'un m'a lancé ça un peu en hate, un peu en insulte, puisque je fais de l'influence, mais je course aussi au plus haut niveau du Québec.
Ouais.
Donc, j'ai juste mergé les deux termes, racefluencer, puis c'est rendu mon branding.
Ouais.
Je le trademark, c'est moi le racefluencer du Québec. Puis ça en est drôle, puis parce que c'est exactement ce que c'est. Parce que oui, je fais de la création de contenu, oui, je fais de l'influence, comme on dit,
ouais.
Mais comme j'ai dit, je suis un coureur élite.
T'es haut niveau, là,
je suis au plus haut niveau au Québec. Je fais des pas loin des podiums, 5e place en fin de semaine, 10e la semaine passée. C'est ce que je fais. Je crée du contenu, je fais du bike, puis je mixe ensemble les deux.
Ouais, fait que racefluencer. Mais j'aime l'expression, en fait. Je trouve ça, c'est comme, OK, tu reprends ce que les gens te lançaient.
Exactement.
Là. Est-ce que c'est mal vu dans le milieu? Tu sais, de quelqu'un qui fait... qui est influenceur, entre guillemets. Moi, ce mot-là, je le connais bien parce que je me le suis fait apposer rapidement. Là,
ouais.
Tu sais, mais est-ce que c'est quelque chose qui est mal vu dans le milieu du sport d'excellence? Parce que moi, quand je le suis devenu influenceur, je n'étais plus dans l'excellence. Je l'ai été avant, je ne le suis plus maintenant. Tu sais.
Je crois que je dérange beaucoup au niveau élite. Y a-tu un peu de jalousie parce que je peux en vivre du sport, puis d'autres qui ont un meilleur fitness que moi sont meilleurs, puis ils font pas une scène avec? J'entends des échos, il y a du monde, je sais que ça parle dans mon dos, je sais qu'il y a du monde qui aime pas ça, il y a du monde qui trouve ça niaiseux, mais il y a du monde qui aime ce que je fais, ils écoutent, ils sont religieusement mes vidéos, ils écoutent mes recommandations, ils tech mes tests, ils écoutent les vidéos que j'ai fait, ils me suivent, puis au final, moi je fais ce que je ferais, rien d'autre anyway, je fais du bike, j'aime ça créer, puis je partage mon expérience, puis j'ai une opinion fort, puis ça me dérange pas de la partager haut et fort, dire sur les médias sociaux quand quelque chose fait pas mon affaire, puis... Comme c'est ça. Il y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui aime pas ça, mais au final, je fais ce que je crois qui est mieux pour moi de pouvoir continuer à le faire, continuer à en vivre, puis c'est d'en parler, d'utiliser les médias sociaux pour en faire un métier.
Ben oui, exact. Puis écoute, on va tomber direct dans ça parce que ça m'intéresse beaucoup. On en parlait juste avant de commencer à enregistrer, puis j'en ai parlé pour les auditeurs du Pika Podcast. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais... la définition, dans le fond, d'un athlète professionnel, tu sais, où est-ce que tu fais du sport, ta profession, ça passe par plusieurs options, en fait.
Ouais.
Mais dans des sports comme le vélo, à moins que tu sois sur une équipe professionnelle, l'autre option, c'est de faire ce que tu fais.
Vraiment. Puis même sur une équipe professionnelle, dès que tu n'es pas au niveau World Tour, tu es une coche en dessous des meilleurs au monde, tu vas faire 13 000 par année.
Ouais, c'est ça.
C'est brutal comme sport. T'as toujours des milliers de gens qui vont toujours vouloir prendre ta place dans une équipe semi-pro pour peut-être percer, vivre à un salaire... Pas de salaire.
Ouais.
Puis
devoir faire autre chose. Travailler,
puis
faire autre chose.
Ouais. Arriver à la fin de ta vingtaine, t'as pas percé. Il y en a qui ont pas d'études, il y en a qui ont rien d'autre que le vélo dans la vie. C'est pas facile comme sport.
Ouais.
Ben, comme tout sport professionnel, on s'entend.
Ouais.
C'est une des façons que j'ai trouvé pour moi de me faufiler entre les mailles du filet pour réussir à générer des revenus puis juste continuer à faire ce que j'aime.
Comment ça a commencé?
Ça a commencé, je pense...
Parce que j'ai vu...
Vas-y.
J'ai vu une publication que tu as partagée. C'est comme toi au fil du temps. Là. Puis là, c'est comme, OK, skate bum, skate bum, longboard bum, longboard bum, patin de vitesse.
Ouais.
Après ça, toi dans un kit de mountain bike puis toi dans un kit de road bike.
Exact. Ben en fait... début, 18 ans, j'ai découvert le longboard de descente. Ça a été mon premier sport où j'ai commencé à mettre toute mon énergie dedans. J'ai réussi à évoluer jusqu'au niveau World Tour, faire des Coupes du Monde en longboard de descente.
En
sport
descente,
très niche,
fait que genre, tu descends le plus vite possible.
Ouais, ils fermaient des routes de montagne, balles de foin dans les virages, puis c'est qu'au départ à quatre personnes, les deux premiers avancent au round suivant.
Ça sonne comme de quoi de dangereux, ça, quand même.
Oui, et...
Parce qu'en
oui.
snow, mettons, tu oui. tombes en snow, t'es sur la neige, ouais. tu glisses, tu te fais mal, ouais. probablement. En ça, tu tombes sur l'asphalte, man.
Ben, t'avais un habit de cuir complet, okay. casque full face, c'est quand même les mêmes habits qu'en moto, en moto okay. GP. Fait quand tu tombes, ça glisse. En route fermée, c'est safe. Balle de foin, tout virage, pas de voiture. C'est juste les entraînements en route ouverte qui étaient peut-être très dangereux mm-hmm. quand il y a des voitures à contresens. Puis ce sport-là a pris toute ma vie jusqu'à ma mi-vingtaine à peu près. Et là, j'ai découvert le patinage de vitesse. Je me cherchais un sport élite accessible au Québec l'hiver.
À mi-vingtaine, tu t'es dit « Ok, non, là, ça me prend un sport élite. » Maintenant, j'ai jamais fait de... T'avais-tu déjà fait du sport qui nécessitait comme du cardio et du musculaire? Ou
pas, non, pas autant, non. Alors, autre que le longboard, c'est un sport très demandant physiquement, mais c'était ça se ressemblait beaucoup au patinage de vitesse. La technique de virage,
ouais.
les hanches qui tombent dans le virage, la main au sol, ça ressemblait. Fait que j'ai pris vite le patinage de vitesse pour après ça me rendre compte qu'il y avait trop de gatekeeping. C'était trop dur de percer. Les ouais. clubs amateurs voulaient pas me laisser ma chance. J'étais trop vieux. J'avais pas 14, 12, 13 ouais. ans. J'arrivais à 23, 4 ans. Puis t'es comme, c'est qui, lui, le vieux has-been qui veut ouais. se mettre au patinage de vitesse à cet âge-là? C'est après que j'ai découvert le vélo.
Puis comment tu l'as découvert? T'es juste à... T'es genre...
C'était... les coachs de patin disaient que c'était un bon cross-training l'été. Puis quand une fois que j'ai touché à ça, c'est là que j'ai réalisé qu'il y a une vraie compétition au niveau adulte. À tous les fins de semaine, il y a des courses.
Ouais.
Je pense pas qu'il y a un autre sport adulte que tu peux pratiquer autant d'événements dans ton année, autant de courses. Les courses à chaque fin de semaine, les mardis, les mercredis. C'est vraiment un sport complet au niveau adulte où le niveau est super élevé au Québec. Tu vois, c'est impossible de se rendre au top. Donc vraiment, beaucoup de compétition, puis c'est ce qui m'a attiré dans le sport.
Toi, c'était la compétition qui t'attirait ouais. plus que l'entraînement.
Ouais, vraiment. J'ai toujours été un coureur, toujours voulu me dépasser, toujours voulu faire les podiums. Je suis né de même, I guess.
Ouais, ouais.
Toujours aller à la recherche de la vitesse. Puis le vélo m'a offert ça.
C'est vrai que le vélo, maintenant que tu le dis, j'avais jamais pensé à ça avant. C'est vrai mm-hmm. que il n'y a pas de sport comme ça pour les adultes.
Non.
Ou est-ce qu'il y a vraiment un réseau ou est-ce que l'âge est comme pas vraiment considéré? Là?
Non. Puis t'as des catégories... Cadet, junior, femme, junior, femme, adulte, homme, senior. Puis après, ça va mètre 1, mètre 2, mètre 3. Il y a de la compétition pour toutes les personnes.
Ouais.
Puis tu peux t'entraîner quand tu veux. Il n'y a pas d'aréna, il n'y a pas d'horaire, il ouais. n'y a pas de restriction à ce niveau-là. C'est tu sors de chez vous, tu t'entraînes, puis il y a des courses à chaque fin de semaine.
Ouais. Puis une fois que tu arrives là-dedans, dans ouais. le vélo, fin vingtaine, j'imagine?
Ouais, à peu près vers 26, 27.
Là, t'as quel âge?
29. Okay. Ah non, attends. Oh, un peu avant d'abord. Si j'ai 29, ça fait 5 ans.
OK, 24 ouais. après, mi-vingtaine.
Ouais, à peu près.
Puis comment est-ce que t'arrives dans... Parce que là, t'es racer, mais comment t'amènes l'influenceur dans cette histoire-là? Ça, c'est arrivé comment?
C'est venu une couple d'années plus tard. Début de la pandémie, en fait, moi, autre que le sport, initialement, j'ai une compagnie de production photo-vidéo
ouais.
qui s'appelle Refined Moment. Je travaille avec des spécialisés dans le sport commercial. Sport expert, mais pour les gros clients ouais. et beaucoup, beaucoup d'autres.
Fait que toi, cette compagnie-là, ouais. c'est toi qui l'as lancé?
Ouais, ça fait 10 ans que je fais ça.
Est-ce que t'es tout seul dans ça?
J'avais un employé, là, j'en ai un autre à temps partiel.
OK.
Mais c'est moi, je suis photographe, vidéographe ouais. de carrière, on peut dire. Ouais. C'est ma compagnie.
Ce qui est un bon point d'entrée dans la création de contenu.
Exactement. Donc, ouais. quand la COVID a frappé, tout le monde le sait, les entrepreneurs, surtout moi, j'ai été touché, tous mes contrats étaient annulés, là, je pense.
Ouais.
J'avais 50 000 de contrats qui s'en venaient dans le prochain 6 mois, puis tout, bam, zéro. Tout annulé, tout est reporté. Puis c'est là que j'ai réalisé, j'étais déjà rendu à un assez bon niveau en vélo pour dire que hey, je pourrais peut-être me mettre à en parler, parce qu'il faut quand même être à un certain niveau. Puis j'ai clairement le niveau de production vidéo de qualité. Je sais comment faire des bonnes vidéos, de bien tourner, bien présenter. J'ai mixé ça ensemble. Puis j'ai toujours été un consommateur de YouTube. Et je me dis, bon, ben, je me lance, j'essaie. Je sors une vidéo YouTube par semaine, no matter what, pendant deux ouais. premières années. Puis avec le boom cycliste que la COVID a donné, tout le monde le sait, tout le monde s'est mis à faire du vélo, tout mm-hmm. le monde s'est mis, puisque c'est un des seuls sports que tu pouvais. J'ai rapidement gagné beaucoup d'abonnés, j'ai rapidement pu trouver une façon d'en générer des revenus. Puis maintenant, 3 ans plus tard, j'en fais une carrière.
Ouais. Puis comment est-ce que les vidéos que tu faisais, c'était-tu initialement juste des reviews? Puis à quel point est-ce que tu as fait des reviews gratuits mm-hmm. avant de commencer à en faire des rémunérés?
Très bonne question. En fait, étant une personne qui consommait YouTube depuis longtemps et qui comprenait un peu le game de YouTube,
ouais.
ce qui est très, très important, là, c'est, ouais. c'est pas n'importe qui peut se lancer sur YouTube. La stratégie que je suis allé au départ, c'est que je me suis dit, puis que j'avais fait beaucoup de recherches, personne ne va écouter un vlog, une aventure de quelqu'un que tu connais pas.
Ouais.
Mais tu vas écouter un product review ouais. d'un produit qui t'intéresse. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à build up mon audience. J'ai commencé à tout ce que j'avais chez nous dans le monde de vélo. Je me dis, gars, on va faire une vidéo sur ce produit-là. Une vidéo sur lui, une vidéo sur lui. J'ai partagé mes vraies expériences, les bons coups d'un produit, les mauvais coups d'un autre. Puis les gens se sont mis à les écouter. Puis le but, c'était d'être découvert par la recherche. Donc quelqu'un qui écrit dans la barre de recherche, paire de roues, whatever, review, je tombe dans les premiers. Clique sur les vidéos. Puis c'est après ça que j'ai réalisé que ça a commencé à avoir de l'attraction. Puis c'est après ça les codes affiliés, ça a commencé. C'était une façon facile d'avoir des produits que j'avais pas. Aucun risque pour l'entreprise. Il envoie un produit, il envoie un code. Puis si tu fais des ventes, tu as une commission. Si tu fais pas de ventes, tu n'as pas de commission. Fait que c'est là que j'ai commencé à établir un peu un barème où je voulais être le plus transparent possible. Donc, dans toutes mes reviews, il y a une section les plus, il y a une section tout ce que j'ai détesté. Puis au final, si t'es conscient, t'as eu toute l'information, tu vas acheter le produit en bonne connaissance de cause, ma job est faite. C'est ça, comme ça, je le voyais.
Man, c'est tellement intéressant ce que tu viens de dire là, parce que derrière, il y a plein d'affaires sur lesquelles on pourrait partir à partir ouais. de juste ouais. ton intervention là. Moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé à m'intéresser à la course à pied, après ma carrière de nageur, ouais. il y a un gars qui s'appelle Seth James DeMore qui fait des reviews de souliers.
Okay.
Puis le gars, il fait des reviews de toutes les marques de souliers mm-hmm. du monde entier. Il se fait envoyer chaque fois qu'il y a c'est comme le plus gros okay. reviewer de souliers de course
ouais.
Sur YouTube. Puis chaque fois qu'il y a une nouvelle compagnie qui sort un nouveau soulier, il envoie, lui fait son review. De première course, on review après 50 miles, puis tu sais, il fait vraiment le gros stock, tu sais. Puis moi, au début, je commençais à écouter son affaire, puis j'aimais vraiment ses reviews. Puis quand il est commandité, il y a un affiliate link aussi, ouais. tu peux aller sur son site, puis acheter les souliers à partir de son ouais. site, puis ça lui donne une cote. Puis même les souliers que tu voyais que c'était une commandite, ils sortaient pas 10 sur 10, là.
Non.
Il sortait 7 sur 10. Il sortait moins bon que d'autres souliers random d'une ouais. autre compagnie, tu sais.
Qui avait acheté lui-même.
Qui avait lui-même ouais. acheté ou qui s'était fait donner juste gratuitement, ouais. sans échange de rien, tu sais. Puis moi, ça y est, cette intégrité-là ouais. que j'y ai retrouvée, c'est le fait que j'écoute encore, je veux dire, mes souliers sont 7, là, je sais quels souliers j'utilise. Sauf que j'écoute encore ces reviews chaque fois qu'il en sort une, tu sais. Puis au-delà des reviews, il y avait aussi du lifestyle puis l'humain derrière, tu sais. Toi, c'est-tu quelque chose que tu as fait aussi?
Absolument. Donc, une fois, j'ai commencé à transitionner un peu aussi mon contenu. Après, quand j'ai commencé à avoir une certaine base, les gens qui reviennent et qui écoutent, c'est que j'ai commencé à faire plus autant des tests de produits, mais en real time, là, comme dans la vraie vie. Puis je partageais un peu plus ma personnalité aussi, pas juste en parlant du produit. Puis du monde sont mis à aimer ce que je fais.
Ouais.
Puis de fil en aiguille, ça a amené vers des super gros projets. J'ai fait des films de vélo, Ocean to Heaven, probablement mon plus gros film à Hawaï, 200 000 visionnements. C'est le film.
Ouais, hein.
Tout le monde, dès que quelqu'un me parle de YouTube, me parle de ce film-là. Mais tout ça a été la suite de créer des contacts dans l'industrie pour faire des produits qui, là, après ça, ces compagnies-là ont décidé de me supporter dans d'autres projets que les reviews, faire des films de vélo, faire des aventures, des challenges, des training camps dans des équipes professionnelles.
Mm-hmm.
Ça a ouvert tellement de portes.
Ça, j'ai vu les training camps, justement, avec les équipes professionnelles. Ouais. Peux-tu me parler un petit peu de ces expériences-là?
Ouais.
Peux-tu me dire un peu qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ouais. j'ai vu ça passer, j'ai pas vu comme tel ouais. le contenu qui en a été créé. Là.
Le contenu est très geek.
Ouais.
En fait, je peux te donner un...
C'est là, tu parles aux auditeurs ultimes qui vont aimer ça. Là.
Ouais,
ici, on geek ça. Sur des produits geek. Là.
Ben, fait que, donner un petit peu de contexte.
Ouais.
Équipe professionnelle EF Pro Cycling,
ouais.
Ceux qui sont en rose.
Anciennement, EF Education.
Ouais, exact. Ben, ouais.
Ouais, c'est la même chose.
Ouais.
Ouais.
Ils ont une sous-entreprise qui s'appelle EF Coaching. Donc, ils utilisent un peu toutes les mêmes assets, les mêmes... De l'équipe professionnelle. Donc, sur le camp d'entraînement de EF Coaching, c'était en même temps que le camp d'entraînement de l'équipe professionnelle. Donc, des gens très fortunés, parce que ça coûte très cher, ça coûtait, je pense, 10 000 euros la semaine à être là pour un camp d'entraînement. Mais
en même temps, dans le vélo, man, s'il y a une place qu'il y a de l'argent, c'est le vélo. Là, ouais.
Puis, ça utilisait toutes les ressources des équipes professionnelles. Les masseurs, les mécaniques, les voitures, les n'importe qui. On était au même hôtel que les pros. On avait des coachs de renommée internationale. On a passé une semaine avec eux. On faisait des drills d'entraînement, des drills de tactique. Chaque journée partait avec un séminaire vraiment intéressant sur comment apprendre à mieux grimper, mieux, aller plus vite, aller comment juste devenir un meilleur cycliste. Puis cette opportunité-là est venue parce que ils ont vu mes vidéos sur YouTube, ils ont vu la valeur que ça pouvait apporter à leur compagnie de coaching, de partager autant de ressources à mon audience.
Ouais.
Ils m'ont invité, j'ai fait les vidéos, ils ont tout été virales, 50 000 visionnements et plus, des milliers de commentaires sur « wow, j'ai tellement appris quelque chose à travers tes vidéos » parce que c'était filmé vraiment POV, point of view, c'était juste moi puis ma GoPro. Pas de grosse cam, pas de gros setup, d'audio, son, c'était juste moi et une GoPro, filmé 5 jours de suite de camp d'entraînement. Ramener ça à un contenu condensé, puis les gens ont vraiment aimé.
Man, c'est tellement hot, ça. Puis toi, l'expérience humaine derrière ça, ça devait être fou. Est-ce qu'il y avait les riders, là, tu sais, Rigoberto Urán?
J'ai roulé avec Urán. La dernière journée, c'était comme la journée, gâterie, on peut dire. Fait qu'on est parti, le groupe de coaching avec... C'était tout le squad du Tour de France. Fait qu'il y avait... J'ai roulé avec Carapaz,
Urán. Ah oui, c'est vrai, il est rendu là.
Cédépaz. J'ai oublié les autres, mais ils sont tous à ce niveau-là. Fait que j'ai roulé avec eux, puis étant le plus fort de ceux qui étaient au coaching, quand que les gars World Tour se sont dit « bon, on roule on plus fort », j'étais le seul qui restait avec eux. J'ai passé la journée avec eux.
Dans le peloton avec Carapaz. 6-7
avec Carapaz. J'ai sauté Carapaz sur une petite drill de sprint. C'était incroyable. C'était une expérience que je vais garder en mémoire toute ma vie. Là.
Mais c'est donc bien, c'est hot qu'eux aient vu en ce que tu fais une valeur, parce que c'est pas toutes les compagnies old school
qui
sont capables de voir ça, tu sais. Puis un des affaires que je parlais avec David, justement, avec David Gagnon, qui est venu sur le podcast, ceux qui écoutent le podcast s'en rappellent peut-être, c'était qu'il y a beaucoup d'éducation à faire quand tu essaies de faire ta place puis de créer, tu sais la valeur que tu es capable d'ajouter, mais il faut quand même que tu l'expliques au brand, faut que tu ailles les voir si jamais eux autres, ils viennent, tu sais, s'il y a un brand que tu veux aller voir, probablement qu'au début, c'était plus toi qui approchais, tu sais, de faire genre « Hey, voici ce que je suis capable d'offrir », mais c'est cool qu'eux s'en rendent compte.
Vraiment.
C'était quoi ta stratégie pour justement les brands qu'il fallait que tu t'essayes de leur expliquer un peu, tu sais, de voir « Hey man, moi, ce que je fais, ça pourrait vous aider, puis là, comment tu peux m'aider, man, t'es qui, kid, là? »
Ben, initialement, je pense que ça a tout commencé, c'est que ça, au début, faut que tu pousses un peu sur les marques un peu obscures, tu sais, je veux dire, j'ai eu un très gros partenaire avec une marque qui s'appelait Winspace, qui était une compagnie chinoise, direct to consumer, qui amenait un peu un produit très haute qualité à un prix abordable, donc ça fitait bien. Eux, ils m'ont fait confiance dès le début, ils m'ont dit « Hey Charles, on aime tes photos de ta compagnie de production, on t'envoie un frame, on t'envoie des roues, j'avais même pas encore de chaîne YouTube officielle et tout. » Puis ils m'ont donné un code promo, puis ils m'ont dit « Tiens, partage ton code promo. » Puis j'étais comme « Ah, j'ai jamais fait ça du code promo. » Puis cette compagnie-là, ils m'ont fait confiance en premier parce qu'eux, étant chinois, il fallait qu'ils trouvent une façon d'avoir de la crédibilité en Amérique du Nord. Ça a l'air plate à dire, mais un homme blanc comme moi, élite, qui roule leurs produits, qui parle de leurs produits, amener une super grande crédibilité. Puis 2 ans plus tard, je pense que j'ai généré pour plus d'1,5 million US de ventes
avec ton code promo. Man, ça, c'est-tu le meilleur investissement de leur fucking vie?
Puis c'est fou, là. C'est incroyable les chiffres que ça a amené. Ça m'a permis, littéralement, dès les quelques premiers mois, avec le boom cycliste, il n'y avait plus de stock en magasin.
Ouais.
Donc, acheter direct to consumer dans Chine, un produit budget, mais très, très, très haute qualité. C'était un super vendeur. Puis je voyais les commissions rentrer. J'en revenais pas, les montants mensuels.
Ouais, parce que même, genre, peu importe là, comment on fait le calcul, là, peu importe c'était quoi ta cote sur le 1,5 million, là, on peut se dire que rapidement, t'as dû dire « Hey Chris,
il y a de quoi faire.
C'est une vraie possibilité que je vive de ça pour de vrai.
» Puis après, ça, c'est ce que ça a permis, c'est de bien prendre tout le data nécessaire, garder puis le présenter. C'est facile après d'aller voir une autre compagnie et me dire « Hey, j'ai généré tant pour cette compagnie-là, voulez-vous un produit? » Fait que là, c'était rendu facile d'avoir des produits, des nouveaux produits que le monde recherche. Puis j'ai fait un peu la formule avec plein d'autres brands. Puis au final, ça a fonctionné.
Ouais.
Jusqu'à ce que deux ans plus tard, maintenant une compagnie Felt, j'ai signé un très gros contrat avec eux. Puis eux, ils ont vu tout ce que j'ai fait pour Winspace, puis on dit « Aïe, ça, c'est ce qu'on a besoin. » Puis ça a fonctionné pour eux, ça va encore plus fonctionner pour nous. Puis J'ai changé de
puis compagnie. Évidemment, là, je vais pas te demander d'ouvrir tes livres, là, mais Feld, c'était-tu un contrat upfront? Ouais, c'est ça.
Parce que je ne pouvais pas faire de commission parce qu'ils ont trop un gros réseau de distribution en boutique. Donc,
ouais, c'est ça.
Ils vendent même pas direct to consumer. Fait qu'il y a pas de façon de track.
Pour toi, ça vaut pas la peine.
Mais non, parce que
si le monde entend parler de Feld de par tes vidéos, ils vont s'en vont en
boutique, ça marche pas.
Ouais.
Donc, c'était un peu à nous de juger comment. Moi, c'est sûr, je voulais aller chercher le plus haut possible, eux, c'est le plus bas possible. Mm-hmm. Ça reste une business.
Même si vous êtes des partenaires d'affaires qui veulent le mieux pour chacun,
c'est ça.
Tout le monde va défendre ses intérêts.
Puis pour en faire ce que je peux, ben. C'est ça. Fallait que je prouve une façon. Donc, j'avais les chiffres de Winspace, j'avais les chiffres de tous mes autres produits, puis on s'est entendu sur un montant qui me permet de vivre du vélo.
Ouais. Mais tu sais, t'as quand même. C'est cool parce que moi, mettons, je le vois du point de vue de l'entreprise par ma compagnie Pika, tu sais.
Mm-hmm.
Puis les gens sont comme frileux parce que moi, j'ai pas de cash upfront à donner aux gens, tu sais, dans le sens, je suis un startup encore, je peux pas comme donner des contrats aux gens, sauf qu'en même temps, j'ai un système de référencement. Mais la plupart des athlètes qui me contactent pour vouloir que je collabore avec eux ou que je les sponsor, entre mm-hmm. guillemets, sont comme frileux au référencement, tu sais, parce que j'imagine qu'ils voient pas la valeur qu'ils pourraient en ressortir, tu sais. Sauf que moi, je peux pas.
Tu peux pas payer,
tu sais, je peux pas justifier de payer, puis après ça, c'est comme, montre-moi-le.
Ouais.
Tu sais, montre-moi-le que ça vaut ce que tu me demanderais, sinon, tu sais. Puis il y en a qui veulent sauter ces étapes-là, mais le fait, ce que tu dis là, de faire, hey, non, mais moi, j'ai commencé par des référencements, là, tu sais, puis ça fait du sens.
Mm-hmm.
Parce que pour les compagnies, sinon, le risque est bien trop grand.
Ben oui,
là,
absolument.
Pis, après ça, tu vas jouer dans, tu sais, en tout cas, là, moi, ça, c'est une autre affaire au niveau de l'entrepreneuriat, mais moi, sortir 1000$ de mon cash flow, ça risque de me rendre backorder à m'amener parce que faut, tu sais, parce que faut que tu roules puis ton roulement puis c'est genre ton inventaire puis tout puis tu peux pas te le permettre tandis que des commissions c'est pas mal plus facile.
Ben oui, c'est ça, je pense que beaucoup de gens qui essaient tout le temps d'avoir le plus de produits gratuits puis au final c'est parce qu'ils veulent sauver de l'argent, mais il faut que le monde comprenne que si une compagnie fait pas si en donne c'est parce qu'ils veulent un retour.
C'est ça.
C'est pas grave de prouver un retour. Why? Pourquoi?
À moins que tu sois Gatorade, mettons.
Oui,
à moins que tu sois des compagnies, des multinationales qui, eux, ont comme, ben là, moi, on a un budget X à donner en produit, puis si on le donne pas, on le perd l'année prochaine. Fait que là, ils font juste le, tu sais.
C'est vrai.
Mais c'est pas la vérité pour des compagnies, tu sais. Je veux dire, Feld, c'est sûrement gros, mais c'est probablement pas encore international, tu sais. Ou peut-être qu'ils le sont, je connais pas assez le vélo, là, mais dans le sens.
Ils ont été achetés par la marque de moto KTM.
Okay, ouais.
KTM, Husqvarna, GasGas, un gros conglomérat de 5000 employés. Fait que c'est rendu,
fait que
c'est
là, sont corrects.
Correct. C'est ce qui explique l'investissement dans Feld, mais oui, c'est gros.
Ouais. T'as fait la série, on en parlait, c'est Quest for Speed.
Ouais, Quest for Speed.
Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je suis Lionel Sanders, tu sais, le triathlète sur YouTube. Puis ce que je trouve le plus intéressant dans sa démarche, c'est qu'il montre toutes les étapes qu'il fait vers essayer de s'améliorer, tu sais, essayer d'améliorer X ou Y affaires, essayer de prendre le lactate pour essayer d'amener ça dans son training, puis essayer toutes ces affaires-là, puis il le fait devant nous, tu sais. Puis on voit à tort ou à raison ses performances être
qu'est-ce qui marche,
plus
qu'est-ce
ou moins bonnes, tu sais. Puis mais ça rend ça super intéressant. Puis toi, la série Quest for Speed, comment ça t'est venu? Puis parlons-en plus longuement pour les geeks qui nous écoutent, qui voudraient peut-être maximiser leur vitesse.
Ouais, ben Quest for Speed est parti de la suite du succès de IF.
Ouais.
Donc hier, je pense qu'une des raisons pourquoi ça a fonctionné cette série-là, c'est que c'était vraiment, je l'ai faite en mode télé-réalité. Fait qu'il y avait un intro qui fait un tease pour le reste, puis après chaque épisode, chaque journée, t'avais le teaser du lendemain, puis là tu revenais la semaine prochaine. Fait que je l'ai faite en série, comme n'importe quelle bonne série, à nouveau.ca, comme Survivor, là, tu comprends? Puis fait que ça avait vraiment bien fonctionné. Je me suis dit, je vais essayer de reproduire ça, mais dans un autre setting. Fait que Quest for Speed était C'était comme un peu le lancement de mon partenariat avec Felt. Felt, eux, sont all about la vitesse. Leur slogan, c'est « Felt is fast ». Ouais. Eux, ils voulaient que je partage mon éducation, mon apprentissage. Puis je me suis dit « Bon, ben on va refaire une série, on va bien la produire. Je vais engager j'avais mon employé Guillaume, qui on a tout vraiment bien filmé, bien monté. Puis ça c'était vraiment un peu repartir de la base. Fait que chaque épisode était une étape vers devenir plus vite. Donc la première, on commence par un bike fitting. Donc là, avec Guillaume de Physio Vélo à Longueuil. Après ça, deuxième, on est allé avec Andreas, un des meilleurs mécaniciens à Montréal. On a parlé d'optimisation d'équipement, des bearings, de ci, de ça, comment rendre le vélo encore plus vite juste par la mécanique. Mm-hmm. J'ai aussi comprendre qu'est-ce qui ralentit ton vélo aussi. T'sais, c'est toutes des questions que je suis allé chercher, puis c'était des choses que je voulais savoir et que je partage avec tout le monde.
Exact, c'est ça. C'est ta curiosité exact. À toi en premier ouais. et le moteur derrière la série.
Ouais.
Qui fait qu'il y a d'autres mondes comme toi. Si c'est toi, ça t'intéresse, ben, ça intéresse d'autres mondes.
Exactement. Puis épisode 3 avec David Gacker qui est venu sur le podcast, on a fait un test ouais. de lactate
ouais.
où que là, j'ai pu comprendre un peu mon style ou ma physionomie de cycliste. Puis ça m'a donné vraiment un gros insight sur comment m'entraîner mieux,
ouais.
Sur comment aller plus vite, comment mieux récupérer. Donc ce test de lactate-là, je pense que c'était mon épisode le préféré où j'ai le plus appris.
Moi, je l'ai fait avec David, le test de lactate. Ouais. Puis... c'est un game changer.
Ouais.
C'est littéralement un game changer. Surtout d'avoir après ça David qui peut te l'expliquer comme ouais. du monde. Tu sais, quelqu'un qualifié comme ça, tu fais ton test de lactate chez mm-hmm. vous puis tu sais pas comment l'interpréter, ouais. c'est une autre game. Là. Mais moi, ça a tout changé sur comment je m'entraîne vraiment. Là, tu sais. Enlever la zone grise. Là.
Ouais, exact.
Carrément ça. Ouais. Là.
Puis je pense que puis avec l'information que David m'a donnée, je me suis entraîné depuis les derniers 3 mois d'une certaine façon que j'aurais peut-être pas faite nécessairement. Puis là, j'ai mes meilleurs résultats à vie en ce moment
ouais.
à cause de l'information, le knowledge que je suis allé chercher dans Quest for Speed. Et après ça, pour terminer avec le 4e épisode où on était au Vélodrome de Bromont, donc ouais. un environnement fermé où on peut calculer et contrôler l'aérodynamisme. Donc, on a fait plein de tests juste en changeant les tissus, juste en changeant les matériaux, la position sur le dessus des hoods en mode sphinx, d'un drop, combien de pourcentage change en fonction de le CDA, c'est le coefficient de drag. Donc, on est allé chercher vraiment des données super précises où que j'ai vraiment trouvé qu'est-ce qui est plus vite pour moi, quelle position, quel linge, quel casque. Puis cet épisode-là était aussi autant intéressant pour comment apprendre à aller plus vite.
Ouais. Je voyais que... prenons chacun des affaires. J'ai des questions sur ouais. tous ces trucs-là. Là. Quand on parle de mécanique là,
ouais.
de vélo, là, moi, mon vélo, il va être prêt cette semaine. J'ai okay. un vélo Lugarno qui s'en vient. Là. Okay. Je me suis fait rapprocher par Lugarno pour faire un vélo custom Upica, là, aux couleurs de Upica, cool. fait qu'il flash vraiment cool. beaucoup. Mais là, je vais commencer à geeker dans le vélo plus que je l'étais. Bon. Je connais ouais. absolument rien pour l'instant.
Ouais.
Mais la mécanique en vélo...
Ouais.
J'ai vu ta vidéo où est-ce que tu fais juste tourner la pédale puis la roue tourne pendant ouais. à peu près 1 minute 30 sans arrêt, là, tu sais, puis même qu'elle semble par bout accélérée comme de quoi qui est quasiment incompréhensible. Y a-t-il une limite de doping mécanique? Et où cette limite-là? Parce qu'en natation, quand je nageais, ouais. année, il y a eu... On est allé over the line. En 2008-2009, il y a eu des maillots 100% en polyuréthane ouais. qui sont sortis. Après les championnats du monde en 2009, la FINA a fait « OK, non, on recule, on met des législations, genoux, nombril, la longueur maximale, puis pas le droit d'avoir du polyuréthane sur le saut. » On est allé trop loin. Mm-hmm. Est-ce qu'en vélo, parce que évidemment avoir un moteur dans ton frame, on s'entend que ça, c'est vraiment du doping ouais. mécanique, mais est-ce qu'il y a une limite que tu penses qu'on s'approche à amener de faire là, les bearings qui roulent tout seul?
Oui, ben c'est je pense c'est que dans le vélo, il faut comprendre que c'est une somme de gains marginaux qui fait une différence.
Ouais.
Donc, c'est un terme, les marginal gains, ouais. tu veux tout les rechercher.
Sur toutes les pièces. Là.
Parce que quand tu y penses, 0.3%, on s'en fout trop, 0.3%. Mais quand tu as un 0.3% sur le casque, un 0.3% sur les gants, un 0.3% sur le... Ça arrive vite à 2-3%. Puis dès que tu arrives, on va dire, si on parle en puissance ou à 300 watts, ben si tu sauves 3% à 300 watts, ben au lieu de, pour la même vitesse, tu vas être à 290 watts.
Mm-hmm.
C'est un gros gain.
Ouais.
Donc, c'est vraiment un amalgame de petites choses. Puis c'est prendre le temps de tout le temps s'assurer que son bike est et un point de mécanique, tu n'as rien qui te ralentit. La chaîne est en état, la chaîne n'est pas stretchée, les bearings tournent, tu n'as pas de la graisse de poignée dans la poulie. Il y a un million d'affaires. Puis quand tu additionnes tout ça, c'est là que ça fait une différence.
Ouais. Puis est-ce que toi, mettons, avant chaque course, tu démontes ton bike au complet, tu le clean, man, genre nickel, parce que les équipes pro, leurs mécaniques font ça, là, tu sais, mais toi, tu fais tout ça avant chaque course.
Je vais te dire, avant, je pense dans les dernières années, je faisais moins ça, je portais moins attention, puis cette année, avant les trois gros courses que j'ai fait au Québec, j'ai littéralement, j'enlève la chaîne, je repasse tout. Puis j'ai fait mes meilleurs résultats depuis que j'entretiens encore mieux mon bike. J'ai un meilleur vélo, j'ai des meilleurs équipements, mais le fait de prendre le temps de vraiment bien dégraisser la chaîne, d'enlever la cochonnerie qui reste poignée, ça change tout.
Ouais, puis les courses que tu fais, là, j'ai vu en fin de semaine, c'est les critériums. Ouais. Combien de temps ça dure?
Les critériums, c'est une heure à peu près.
Okay.
Généralement, tout le temps, une heure. Course sur route, celle qu'il y avait il y a deux semaines, était un peu plus courte. C'était peut-être 2h15. Sinon, c'est à peu près 3h les courses sur route. Je fais les deux.
Fait que le 10 watts là, en termes de pourcentage qu'on parlait tantôt, là, sur 30 minutes, ça change quelque chose, mais pas tant que ça. Mais sur 3 heures, l'énergie que tu dépenses supplémentaire, c'est compound, là, ça s'accumule puis ça devient vraiment gros. Là.
Ah oui, absolument. Puis c'est souvent, il n'y a pas juste la mécanique, c'est le haut du corps aussi. T'sais, en fait, il faut penser que, je pense, la statistique, c'est le vélo est à peu près 10% de ton drag aérodynamique. C'est ton corps qui est 90%.
Ouais.
Fait que t'as bien plus de choses à gagner sur la position, sur le tissu que tu utilises. Mais la position, c'est le plus gros avantage mécanique.
C'est ça que tu as trouvé quand tu es allé à l'aérodrome. Vélodrome. L'aérodrome, ça serait sûrement une affaire à NASA.
Ouais.
Mais fait que le vélodrome, quand tu es allé au vélodrome, c'était ça vraiment le gros take-out. Ouais. C'était la position.
Oui, ben on peut sortir les chiffres ou aller voir la vidéo en détail si vous voulez. Mais les deux gros barèmes qu'on a voulu tester, premièrement, on est parti sur une position en haut des hoods. Ordinaire, vraiment stable, confortable, avec un jersey serré, un bib normal, un casque aéré, normal. Puis après ça, on l'a refait avec un skin suit un petit chop plus long, mais avec un tissu qui est aéro, avec un casque aéro, puis c'était 7% de gain.
Juste en changeant le casque puis le tissu.
Ouais.
Tabarnak!
7%.
7%, c'est massif. Là.
C'est massif. C'est énorme.
Ouais.
Donc ça, c'était une des premières grandes découvertes
puis,
de la journée.
En termes de confort, étais-tu vraiment moins bien?
Non, non, même affaire.
Ah ouais, hein?
C'est un jersey versus un skin suit. 7%. Puis
casque, man. C'est fou, ça.
Puis les bas aussi. Gros gain sur les bas. Les bas aéro, là. C'est
énorme gain sur les bas.
Oui, c'est recherché, là, la marque Rule 28 que je travaille avec. Eux, ils ont fait plein de recherches en soufflerie. Puis juste les bas, ça peut être comme 2%. Parce que c'est les jambes qui... C'est un des premiers points de contact, c'est tes jambes qui sont larges, tu sais, les mollets ou les tibias, c'est quoi, 3-4 pouces.
Ouais.
Puis ça balotte dans le vent, avant, arrière. Donc si t'as un tissu qui fait en sorte que l'air coule mieux autour du mollet, c'est un gros gain.
C'est fou, ça.
Ouais.
Hey, 7%, 7% juste avec des affaires qui sont même pas liées à ta position, puis des affaires que n'importe qui peut changer demain matin.
Ouais. Donc, en test en vélodrome, on peut pas rentrer dans le spécifique, puis on a fait un gros changement de 3 pièces d'équipement. Donc, on est bas, casque, skin suit. Selon l'expert qui est avec moi, il dit le casque à peu près 1,5-2%, les bas 1,5%, puis le skin suit 3-4%.
Ah ouais, hein.
Ça fait notre 7%.
Ouais. Puis, fait qu'après ça, là, vous avez testé la
position.
Position
gros gain. Donc, position confortable sur le dessus des hoods. Tu sais, comme en caméra, vous le voyez, là, normal.
Ah,
là.
Ouais.
Puis en sphinx. Sphinx, c'est les bras à 90 degrés. Donc, sur le top des hoods. Ce qui est très, très, très dur à la position à pouvoir garder longtemps. Faut être stable. Puis, il faut que ton fit sur le vélo soit fait d'une certaine façon, que la potence soit à bonne place. Puis, ça, c'était 10%.
10% en passant en sphinx.
En passant en sphinx, ouais.
Ouais.
Puis d'un drop en bas d'un poignet, c'était 2% moins vite que le sphinx.
OK.
Donc,
fait que le sphinx attend vraiment le plus rapide.
Pour moi. Parce que ça change.
Ah ouais,
à chaque personne, la physionomie, quelqu'un a des plus longues jambes, plus basses, le dos droit, moins droit. Faut le tester.
Ouais.
C'est des genres de choses qui
fait changent. Que c'est pour ça que tu vois, mettons, tu sais, moi, je suis un auditeur ou un amateur de cyclisme professionnel, tu sais, puis... d'un classique de printemps, ouais, quand Pogacar est comme tout dominé avant de tomber sur la dernière, Paris-Roubaix, ouais, je pense. Quand il attaquait puis qu'il allait tout seul en avant, il se plaçait en sphinx pendant un vite, genre de 20 minutes, ouais, jusqu'à l'arrivée.
C'est
là,
plus vite. C'est, ouais, de loin le plus vite. Tu vois, dès qu'il y a un échappé, tout le monde est de même. Et tout le monde est de même. Mais tu peux pas garder ça pendant 4 heures.
C'est ça.
Fait que c'est pour ça que quand tu es dans les roues, t'es plus relax. C'est là que tu reprends ton confort. Tu reprends. Parce que c'est un gros strain sur le corps d'être dans cette position-là, de la tête baissée, les épaules remontées. Donc, c'est vraiment qu'il faut que tu choisisses ton moment ou quand tu veux y aller. Puis souvent, c'est quand tu veux aller vite.
Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a parlé de la mécanique. Ouais. Puis la mécanique, juste pour revenir là-dessus, ouais, quelqu'un qui veut mettre son hypothèque sur son vélo, là, il est capable sûrement. Ouais. Tu sais, ça doit monter vite. Si tu veux maximiser toutes tes affaires, puis les, ouais, petits 0,3% de ce qu'on avait, ça doit quand même devenir extrêmement dispendieux. Mm-hmm. J'imagine qu'il y a comme un ratio de comme là, ces virgules-là, là, à moins que tu sois vraiment dans le top. Toi, tu le fais parce que t'aimes ça t'intéresse, puis tu sais, c'est comme la quête vers la vitesse, mais à amener, j'imagine que le monde, ils se disent là, c'est assez, là, mettre.
C'est sûr, ça
mon fonds de pension.
Ça
dans
peut
un
coûter
vélo,
une fortune, puis surtout quand on roule en route ou en critérium, tu peux cracher ton bike n'importe quand.
C'est
donc,
ça.
Un terme qu'on dit, c'est race what you can replace. Donc, si t'as un bike à 15 000, mais tu peux pas racheter un autre bike à 15 000 le lendemain que tu l'as craché, tu devrais pas.
Race what you can replace.
Ouais. Bon, en triathlon, c'est peut-être un peu moins pire. Ça arrive moins souvent, des crashs.
Ouais.
Parce que t'as pas d'autres gens trop autour de toi. Ou des fois, c'est pas de ta faute un crash. Mais en même temps, ça peut arriver en entraînement, une voiture, une piste cyclable, un piéton qui traverse. We can replace. Mais ouais, oui, ça coûte très cher. Est-ce que c'est quoi le point de non le point de la valeur,
ouais,
pour aller chercher le max de performance?
Dur à dire, j'imagine.
Au moins au moins un bike à 5000, au moins, ouais, pour avoir quelque chose de correct, rapide, confortable. Mais ça se trouve des deals à 3-4000, un bike usagé,
ouais, ouais,
qui peut aller aussi vite. Mais ton plus gros gain va être ton entraînement.
Ben oui, c'est ça.
Puis, tu sais, je veux dire, moi, je peux sauter n'importe qui avec un bike à 1000$ versus mon bike à 15 000. T'sais.
Ouais, ouais, tu serais meilleur que moi, même si moi, j'étais en contre-la-montre, puis toi, t'étais en bixi.
Ouais, c'est drôle à dire, mais. Mais toi, je t'ai demandé, ton vélo Garneau, c'est un vélo de tri ou un vélo de route qu'ils vont t'avoir?
Vélo de route.
Bonne chose. Ouais. De commencer vraiment.
Ouais, ben là, moi, mon idée, c'était. T'sais, quand ils m'ont approché, j'avais vraiment aucune idée, là.
Ouais.
Tu sais, je connais pas ça pantoute, sauf, ouais, que ce que je me suis dit, c'est j'aimerais ça pouvoir aller faire des longues journées, ouais, sur le vélo, de cross-training, puis de, tu sais, éventuellement peut-être me diriger vers le triathlon, là, mm-hmm, fait que mais j'avais pas l'intention d'avoir, okay, un vélo genre de contre-la-montre, okay, de tri, là.
C'est une bonne chose, parce que c'est quelque chose que tu m'avais dit que tu voulais peut-être éventuellement t'y lancer à fond, puis c'est peut-être une erreur qu'on voit souvent au niveau des gens qui se lancent dans le triathlon. Ils s'achètent tout de suite un bike avec des barres, puis ils pensent qu'ils vont plus vite, mais ils vont moins vite parce que, à cause de la position agressive ou basse, c'est dur de générer une plus grande puissance.
Ouais.
J'irais plus vite sur mon bike de route que 90% des triathlètes amateurs,
ouais, sur
un bike de contre-la-montre.
Parce
que, pas nécessairement à cause du fitness, c'est qu'à cause c'est de s'entraîner à aller rapidement avant son vélo de route, avant d'aller,
ouais,
sur un bike de tri, parce que la position va faire en sorte que tu ne peux pas générer une grande puissance.
Ah ouais, OK.
Parce que quand tu es penché par en avant, ça ferme un terme, là, le hip angle. Tu connais-tu un peu ça?
Ben, okay. Je suis capable de comprendre qu'est-ce que ça doit vouloir dire.
Plus l'angle de la jambe est fermé, le hip,
plus c'est difficile d'aller générer de la puissance.
Exactement.
Ouais.
Donc, quand
ça fait du sens.
Puis moins tu es flexible, le moins tu peux générer de la force dans cette position-là.
Mm-hmm.
Donc, faut vraiment aller chercher les deux. C'est avant d'avoir la puissance, la garder constante longtemps. Puis après ça, d'être. Penser à optimiser l'aéro d'un bord.
Ouais, puis on s'entend que rendu là, tu sais, faut que tu sois quand même, pour que ça fasse la vraie différence, faut que tu sois dans les élites. Puis tu sais, moi, quand je vois, mettons, des masters buster 15 000 piastres sur leur bike, c'est un esti de hobby, là, on s'entend, là. Oui. Tu sais, ça commence à être genre, faut que tu sais, c'est un bon voyage à chaque 3 mois dans une année, là, tu sais.
C'est incroyable comment ça peut coûter cher.
Ouais. Puis parlons d'entraînement, ouais, en fait, justement, parce que là, mettons qu'on reprend le test lactique avec David Yecker, là. Tes trainings ressemblent à quoi? Parce que là, tu t'entraînes, tu te dis pour un critérium, j'imagine que c'est des quasiment des bursts de vitesse ouais. vraiment intenses très souvent.
Ouais.
En peloton, après ça, des road race, c'est plus endurance zone 1, puis genre finalement un sprint final. Tes trainings ressemblent à quoi? Puis est-ce que tu essaies d'être comme généraliste
ouais.
ou bien tu essaies d'être spécifique un peu?
C'est dur parce que il y a tellement d'approches différentes, de philosophies différentes d'entraînement. C'est sûr que quelqu'un qui va juste s'entraîner, il dit « moi, je fais juste des courses d'une heure, je fais juste des crits », t'as beau juste t'entraîner à faire des intervalles, souvent, si t'as pas l'endurance d'arriver en fin de course pour pouvoir lancer ton plus gros sprint, ben là, t'es pas gagnant.
Ouais.
Parce que t'as beau avoir...
T'es resté dans le pack, tu t'es pas fait lâcher, mais...
Mais t'as pas l'endurance de sortir ton plus gros sprint à la fin de la course. Puis c'est ça qui est important. Puis moi, c'est un peu ça mon défi. C'est que j'ai probablement dans... généralise, mais dans les top... dans le top 10 des plus gros 15 secondes au Québec, là, je peux sortir un immense, immense 15 secondes. Sauf que moi, il faut que je sois capable de le sortir après une heure de course. Ouais. C'est ça qui est difficile. Fait que là,
c'est la force... À travers toute sa carrière, la force de Mark Cavendish,
exact.
C'est ça.
C'est de le sortir.
C'est pas le gars qui watte le plus non. en test. C'est pas le gars qui a les meilleures aptitudes cardiovasculaires. C'est que sa capacité à sortir un sprint
après.
À fin d'une ouais. étape.
Sauf que là, si tu t'entraînes juste en endurance, ben là, tu perds ton
T'es
punch.
T'es pas capable de le sortir. Ouais.
Fait que c'est comme une game de trouver le meilleur ballon, d'être capable d'être fort en fin de course. Puis parce que. Et d'accord de bien naviguer son vélo.
Mm-hmm.
Les critériums, hier, j'ai filmé toute la course là, avec une caméra en avant, puis c'est fou l'action qui se passe dans le dernier tour.
Critérium, ça a l'air vraiment débile.
Je t'enverrai la vidéo d'hier, mais c'est comme, j'étais en avant, puis là, ça prend 3 secondes, t'as déjà 25 personnes qui me contournent, puis il reste à peu près 40 secondes à la course, il reste un demi-tour, puis il faut retrouver les bonnes roues, remonter, être agressif, pas cracher.
Mm-hmm.
Puis c'est tout ça en sortant des gros chiffres. Puis après ça, une fois, c'est lancer le sprint à la fin. C'est ça qui est dur aussi.
Fait que comment tu t'entraînes pour ça?
Moi, c'est un mix. Tout ce qui était. Moi, de marche, je l'ai appelé le zone to march. Mm-hmm. Littéralement, j'ai pas fait au-dessus de 300 watts.
Sur un,
tout un mois de marche.
Zone 2 sur un système à 5 zones.
Ouais, exact. 5 zones. Donc moi, je suis resté.
Sur la zone 1 pour ceux qui utilisent le système à 3 zones.
Tout mon mois de mars, littéralement, j'ai pas fait un intervalle, pas un sprint, parce que je l'ai déjà le sprint. Je l'ai déjà en sens avec le patinage à vitesse, le longboard, j'ai déjà l'explosivité.
Ouais, t'as les fibres rapides. Là.
C'est ça, vraiment. Puis on l'a vu avec David aussi dans Quest for Speed. Il l'a vu, il dit mon lactate est capable de monter vraiment, 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 vraiment plus haut que n'importe qui. Mais dès que quand j'arrive à ce niveau-là, j'explose.
Ouais.
Donc pour moi, c'était important de monter ma zone un peu plus haut de zone 2. Donc j'ai tout le mois de mars, j'ai fait juste la zone 2. Avril, j'ai commencé à faire du spécifique. Puis maintenant, là, c'est sûr que les courses ont commencé. Il n'y a plus vraiment d'entraînement. Là, c'est rare parce que tu cours à chaque 2-3 jours. Donc,
c'est de la récup entre les...
C'est de la récup entre, puis c'est de la récupération active. Aller faire un petit 30 kilos avec ma blonde sur le tandem.
Sur le bord du canal.
c'est ça. C'est d'être plus relax. Mais c'était pour moi, personnellement, c'était ça. Zone 2, toute mars. Intervalle, sprint. Puis là, c'est de... Quand il y a un petit délai entre les courses, c'est de rajouter d'intensité, rajouter des intervalles, puis juste rester rapide.
Ouais, fait que c'est ça. Okay. Fait que de la zone 1 pour être capable d'arriver à la fin des courses avec en n'ayant pas grugé dans ton système anaérobique.
C'est ça,
là.
Exactement.
Ouais, ça fait du sens. Là. Moi, quand je nageais, j'étais un peu comme toi. Là, tu sais, j'étais capable de puncher vraiment beaucoup. Puis, mais j'avais comme. C'était l'endurance que si j'avais voulu étirer mes courses, tu sais, je veux dire, c'est des courses de 23 secondes. Fait qu'on s'entend que t'as pas besoin d'avoir. Le bagage pour te faire une heure avant de puncher 23 secondes. Là.
Ouais, c'est ça.
J'avais pas besoin d'avoir ça. Là. Mais clairement que ma zone 1 était vraiment sous-développée. Puis quand j'ai fait ma transition vers la course à pied, où est-ce que là, ce n'est que de la zone 1 pratiquement, tu sais, où genre t'es tout le temps en aérobie, là, c'est rare, à moins que tu fasses un 400 mètres, mais je fais pas ça. Là. Fait que t'es tout le temps en aérobie, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que là, j'ai réalisé, surtout après avoir fait le test de lactate, que genre, OK, ma zone 1 est. C'est juste ça. Il faut que je passe du temps dans zone 1, dans le fond.
Ce qui est plate, des fois. T'sais.
Ouais. C'est mais en même temps, je sais pas, mais je trouve ça plus, plus facile de se motiver à s'entraîner en zone 1. Moi, j'ai comme...
T'es-tu un gars qui roule, qui s'entraîne plus tout seul ou avec des gens?
Tout seul.
OK.
Ouais. Fait que tout seul en zone 1, c'est facile. Aller faire des intervalles tout seul, je trouve ça plus tough un peu. Là. Mentalement, mettons.
En vélo, c'est dur parce que souvent, quand tu vas rouler avec d'autres gens... t'as beau te dire, ah, aujourd'hui je roule l'Easy, je roule Zone 2, puis là, tu roules avec tes chums. Puis
le monde commence après.
T'as commencé à faire une première attaque, une deuxième, puis là, c'est juste un concours de qui a le plus gros.
Mais moi, c'est pour ça que je cours tout seul maintenant.
C'est ça.
Parce qu'avant, c'est comme, ok, là, j'ai une course en zone 1, finalement, tout le monde punch à la fin, puis là, les derniers kilos, t'es à bloc, puis tu fais comme, man, c'était supposé être relax, aujourd'hui, je suis pété.
Puis là, tu viens de perdre un peu tout le but de l'entraînement. Exact, puis là, ça impacte les jours qui suivent. Donc, moi, ça m'a vraiment aidé d'être discipliné, vraiment. Quand je dis je roule zone 2, je roule zone 2. Puis des fois, je roule avec des chums, puis genre...
T'es laissé aller.
J'ai laissé aller. Ouais. Je leur ai dit au début, faites ce que vous voulez. Tous mes chums de la Rive-Sud, à Boucherville, ils courent pas. Ils sont bons, ils font pas de la course, mais tu sais, eux, quand ils roulent, ils roulent pour... Comment je peux dire... être fatigué à la fin. Ils roulent pas en passant aux courses qui s'en viennent la fin de semaine. Quand moi, je leur dis, hey boys, moi aujourd'hui, c'est zone 2, puis si vous roulez plus fort, all good, mais moi, je sors pas de ça. T'sais.
Ouais, la discipline pour respecter ça, c'est vraiment un enjeu important. Là.
Ouais, mais encore plus, c'est quand tu vas. Je sais pas, tu n'es pas encore allé au circuit à Gilles Villeneuve, mais tu sais, là, c'est dur, étant pour moi un courseur, voir tous les trains, tous mes chums.
Le monde se draft,
puis ça passe à côté. Puis c'est tous mes amis, puis je les vois aller, j'aurais le goût de rentrer dans le train, puis aller faire des attaques, mais finalement, non. On reste dans le plan. On suit le plan.
Ouais. C'est Molly Seidel, qui est une marathonienne, est arrivée troisième aux Olympiques sur marathon, là, aux derniers Olympiques. Puis elle a dit, c'est la championne du monde. Mettons, tu regardes son Strava, puis elle a l'air d'une coureuse vraiment mauvaise. Là.
OK.
Tu sais, parce que ses sorties sont tellement lentes. Là.
OK.
Genre, ses sorties lentes, ses sorties de jog sont tellement lentes. Puis elle a dit, des fois, c'est frustrant à quel point il faut que tu ailles lentement.
Ouais.
Mais que tu ailles, mettons, là, je vais donner des chiffres, mettons que tu cours à 5 minutes du kilo ou à 6 minutes 30, sur ton entraînement, il n'y aura aucune différence. C'est, mettons que tu es en zone 1 à 5 minutes, mais en zone 1 à 6 minutes 30, si ça ne changera absolument rien, mais à 6:30, tu vas beaucoup moins accumuler de dommages musculaires, de dommages tissulaires qu'à 5 minutes, tu sais. Fait qu'elle, ses courses-là sont comme... Je pense qu'elle est à 3 minutes au-dessus de son pace marathon, du miles, sur ses courses easy. Okay. Tu regardes ça, c'est comme... C'est lent, là.
Genre. Mais on race day...
Mais on race day, est prêt.
C'est ça. Moi, comme... quand je suis sorti jeudi, c'est comme... Faut être lent. Je suis prêt à être lent le jeudi pour être rapide le dimanche.
Exact, ouais.
Faut le voir de même.
Ouais, ouais, exactement. Exactement. puis le... Y a-tu un entraînement différent entre le gravel puis la route?
Non, ben oui.
Parce que tu fais du gravel.
Je fais aussi du gravel. Ça dépend. C'est que le gravel peut être vu de tellement différentes façons. T'sais. Pour beaucoup de gens, le gravel, c'est l'aventure, le party pace.
Ouais.
C'est juste aller aux événements avec tes chums, rouler en chum, finir, puis prendre la bière après.
Le vibe est un peu...
Le vibe est très, très différent.
Au trail, et le gravel est à la route, ce que le trail running est à la course.
Ouais, exact. Ça ferait du sens.
Ouais.
Puis, tu as une faible partie des gens qui vont aux événements gravel qui sont là pour la gagne.
Ouais.
Donc, tu sais, si je pense à un des plus gros événements, on bound, 4000 participants, tu as juste 100 personnes qui sont des vrais contenders pour la gagne.
Faire du monde qui veulent faire du top 10.
Tu as peut-être 500 qui vont pour se pousser, puis les 3500 autres, eux, c'est on fait la course.
C'est ça, exact. Ouais.
Donc, est-ce qu'il y a un entraînement spécifique? Faut que tu parles à mon chum Adam Roberge, qui est top en gravel au monde en ce moment. Puis lui, c'est sûr que c'est du gros, 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 gros volume parce que les courses sont longues.
Ouais, c'est ça.
Les courses sont 5 heures, 6 heures. C'est du 200 miles, les courses de gravel. C'est long, 300 km. Fait que c'est vraiment... Lui, il s'entraîne en fat bike l'hiver. Fait des journées de 6 heures à moins 15. Puis c'est des longues journées.
Ouais. Je vais faire une parenthèse sur Adam Roberge parce que... Il y a eu une genre de mini-controverse la semaine passée.
J'ai parlé au téléphone.
Moi, j'ai trouvé ça... Juste remettre peux-tu juste remettre en contexte les gens? Puis après ça, moi, je vais donner mon take sur ça pour... puis j'aurai pas de retenue sur ça.
Ouais.
Fait que dans le fond, c'est ça. Il a gagné une course, mais dans la controverse.
Exactement.
Tu peux expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement.
Donc, pour ceux qui savent juste pas ce qu'il y a dans Roberge, c'est un ancien skier sur route très très haut niveau continental au Québec. Puis il y a vraiment des
couverts. Il y a son nom sur Pro Cycling Manager, ceux qui jouent au jeu là. Fait que quand t'as ton nom sur Pro Cycling, quand il y a un personnage qui est là puis que c'est toi, t'as un bon niveau de vélo là.
Il a été il a couru au plus haut niveau sur route peut-être dans presque world. Pas world tour, là, une, deux coches en dessous. Puis il a découvert que par le gravel, il peut en vivre plus facilement. Ouais. Il est devenu, il a focusé sur le gravel, puis maintenant, il gagne des grosses courses de gravel. Parlant de la grosse course, Gravel Locos, il y a deux semaines. Donc, c'est que le problème avec la gravel, c'est que c'est un peu un gentleman's club. Là. Le top du gravel, là, tout le monde se connaît, tout le monde se suit. Puis il y a comme des règles non écrites que... Quand tu es en un groupe en avant, faut que tout le monde travaille égal pour pas que l'échappé se fasse rattraper.
Ouais.
Ça, c'est une règle non écrite.
Ouais.
Sauf que le problème, c'est que si tu travailles égal que les anciens, tous les autres tops, mais Adam qui est une coche en bas d'eux, s'il travaille égal, à la prochaine boss, prochain défi, il va se faire larguer.
Ouais.
Donc, stratégiquement, pourquoi il travaillerait égal, pull for pull, le terme, pourquoi il travaillerait égal que les autres en sachant très bien qu'ils sont un peu plus forts? Faut qu'il joue stratégie.
Ouais.
Donc, ce qui est arrivé à Gravel Locos, c'est je pense qu'il y avait un échappé, il était une dizaine de gars, puis les 7-8 autres, ils travaillaient aussi fort. Mais Adam, il dit, moi, je ne travaillerai pas parce que moi, je suis correct à amener ça au sprint.
Ouais.
Il restait en arrière, puis je sais pas, vers la fin, il a attaqué tout seul parce que tout le monde était explosé.
Ouais.
Il a travaillé pro for pro, mais pas lui. Puis il les a sautés, puis il a fini en break tout seul, puis il a gagné la course.
Ouais.
Puis ça a fait une grosse controverse.
Ça a fait une controverse parce qu'il n'a pas tiré égal que les autres. Moi, quand j'ai vu ça, là, je comprenais pas.
Ouais.
Je comprenais pas pourquoi il y avait une controverse à ce propos-là, parce que le monde essaie de gagner.
Ouais.
Tout le monde essaie de gagner.
Mm-hmm.
Puis tu utilises la meilleure stratégie. Puis si les autres sont tannés que lui, il tire pas... T'as juste à te lever. T'as juste à te lever sur ton bike puis pas tirer toi non plus. Vous allez vous faire rattraper par le peloton puis ce sera ça. C'est dans le fond, moi je comprenais pas. Genre, puis peut-être que c'est parce que je connais pas les règles non écrites du gravel. Peut-être que c'est parce que... Mais de mon point de vue de compétiteur, qu'un gars se fasse reprocher d'avoir utilisé la stratégie qui l'a amené à gagner, je trouve ça absolument débile.
C'est sûr. Puis au final, après avoir parlé à Cadan au téléphone, les autres ont peut-être réalisé un peu que c'était con leur commentaire, puis ils sont excusés, puis parce que ça a fait une grosse controverse. Parce qu'au final, il a gagné la course ça, en une seule stratégie. Est-ce que c'est fair play? Il n'y a pas autant de travail que les autres. C'est débattable. On s'en fout. Au final, l'important, c'est qui le premier qui traverse la ligne.
C'est ça.
Dans la légalité, t'as pas pris un raccourci sur le parcours.
Exact.
T'as pas drafté une moto sortie cachée du bois. Tu t'es pas dopé.
Exact.
On s'en fait. Il est grosse controverse, mais au final, je pense qu'Adam il est sorti on top of it parce que tout le monde a pris son bord quand ils ont réalisé à quel point c'était niaiseux.
C'est ça. Puis c'est vraiment comme. J'imagine que c'est parce que c'est du gravel que ça fait une controverse, parce que sa route, ça aurait jamais été une question. Il n'y a personne qui va dire à Mark Cavendish, qu'est-ce que tu fais, tu ne tires pas.
Mais non, Mark, genre, il dit, moi, je suis là pour le sprint. Là.
C'est ça.
Moi, je reste en arrière puis je vais vous sauter au sprint. Fait que, c'est à l'heure... Quand il y a un échappé en vélo de route, quand tu vois qu'il y a un gars qui ne travaille pas, ça arrive, on dit qu'il y a 5 gars en échappé puis tu en as un qui ne veut pas travailler, ben c'est à l'échappé de dire, soit tu acceptes qu'il y a un gars qui ne travaille pas, ou tu l'attaques jusqu'à ce qu'il saute.
Ouais.
Fait que tu fais des attaques, puis à un moment donné, il est plus là, mais là, tu te retrouves avec ceux qui ont réussi à tenir. Sauf qu'Adam, il est trop fort pour se faire larguer dans ces attaques-là.
C'est ça, ouais.
Mais il était une coche en bas pour être aussi fort qu'eux. Fait que, il a joué la meilleure carte du monde, il était patient, puis...
Ben, je suis content de savoir que c'est revenu l'autre bord, puis que le monde a comme compris, là, tu sais.
Ouais.
Parce que, puis aussi, c'est que le gravel, c'est comme up and coming.
Ouais.
Puis si... tu acceptes pas que les gars jouent pour la victoire puis la compétition puis comme relever tout le temps le niveau, ben comment tu veux que ton sport grossisse, tu sais? Si tu commences à bâcher les gars qui gagnent parce qu'ils ont utilisé une bonne stratégie, ton sport, il est voué à rester un sport de plaisance, là.
Ouais. Mais tu sais, Adam, il n'a pas été chanceux. Je pense qu'il y a souvent un target sur son dos, on peut dire. C'est arrivé aussi même l'an dernier encore une fois, le boys club du gravel sont tous dit ensemble, OK, on arrête tous au prochain feed zone. C'est une autre controverse qu'on peut en parler. Fait que tout le monde s'est dit, OK, on arrête au prochain feed zone. Puis Adam, lui, il s'est traîné un hydration pack. Il s'est dit, fuck that, man. Moi, j'attends pas. Fait que tout le monde s'est arrêté.
Tout le monde.
J'ai traîné, puis je l'ai amené. Il a attaqué le feed zone. Puis là, ça a été une autre controverse. Adam Robert, j'attaque le feed zone. Mais au final, c'est une autre stratégie.
Exact.
Puis les gars étaient fâchés contre lui. Mais. T'sais, avant la course, tout le monde s'est dit on met pas notre hydration pack, puis lui il l'a mis. C'est comme...
Mais man, moi, c'est tant que. Dans le fond, si tu veux que ton sport devienne professionnel, faut que ça soit, ça fasse partie de la game. Sinon, ça le deviendra jamais. Ça va rester un sport de genre, on s'amuse les fins de semaine. Là.
Ouais, exact. Puis c'est ça. Le gravel, c'est différent. Personnellement, j'aime ça, mais j'aime mieux la route. J'aime mieux l'écrite. Ça me rejoint plus comme type d'athlète. J'en ai fait beaucoup. Assez pour dire que c'est le fun, mais je préfère la route.
Ouais. T'as fait un doublé l'autre fois? Ou est-ce que t'as fait une course de gravel, t'as changé tes roues, t'as fait une course de route? Ça ressemblait à quoi cette journée-là?
C'est souvent avec YouTube, on se dit, tu penses à des idées un peu
je vais faire ça, ça va être intéressant pour les YouTubers. Puis là, tu te ramasses dedans, tu fais « Oh man, fuck! »
Ouais, exactement. Puis j'étais à Seattle, un des plus gros trade shows de vélo en Amérique du Nord. Faites m'ont envoyé pour couvrir l'événement. Puis ça a donné que la course de gravel et la course sur route étaient la même journée.
Mm-hmm.
Ça aurait été le fun, ça soit. Mais j'avais juste mon bike de gravel. Donc, on s'est dit, bon, ben, là, j'ai fait la gravel le matin. On a changé les tires. Fait la course sur route en après-midi. Puis, c'est sûr, la course sur route, j'avais déjà eu 3 heures de bike dans les jambes. J'arrive avec des gars qui étaient toutes fraîches.
Ouais.
Évidemment, j'ai crampé, mais j'ai quand même toffé 3/4 de la course avec le pack. Puis, c'était le fun pareil. Puis, c'était un beau petit vidéo que j'ai fait avec ça.
C'est du stock. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le contenu? Là?
Ouais. Mais dans cette vidéo, si je peux en faire une parenthèse, peut-être que tu l'as probablement vu, mais un des secteurs de cette. Parce que souvent, les organisateurs de course de gravel, ils veulent rendre ça tellement extrême que c'est une course de mountain bike, mais sur des bikes de gravel.
Puis
Seattle, c'était ça. C'était littéralement un parcours de mountain bike en bike de gravel, ce qui est niaiseux. T'as pas de suspension, t'as des plus petits tires.
Tu te pètes.
Puis à un moment donné, je me suis enregistré, j'avais parti à GoPro.
C'est-tu ta vidéo la plus virale?
Je descends un secteur, puis je sais pas ce qui m'est... je me suis mis à parler à voix haute, à réfléchir à voix haute, puis c'est tout à capturer avec la caméra. C'est juste moi qui sacre du beau québécois, là.
c'est le pire. T'as l'air, man. Tu shakes de même sur ton bike.
Je me demande pourquoi je fais ça?
Ouais.
Tabarnak, c'est quoi ça? Puis au final, j'ai trouvé ça drôle. Moi, ça m'a fait rire. Je dis, on va en faire un reel. Puis là, ça a explosé. Genre 1,5 million de vues.
Ouais.
Puis ça a comme parti. Ça a été viral en France. Ça a l'air que les Français, ils ont utilisé ça comme façon d'apprendre le québécois. Comment ça crée comme du monde, tu sais.
Ouais.
C'était super drôle. Puis il y a eu une autre. Controverse, c'est que j'ai utilisé le terme French Canadian, puis il y a du monde qui dit c'est Québécois versus French Canadian. Fait que dans les commentaires, ça se battait sur le terme. Puis t'avais les Français qui trouvaient ça drôle, puis t'avais les Québécois qui se battaient contre les Canadiens français en termes le terme French Canadian. Puis
il y a rien qui permet de rendre une publication virale comme un débat dans les commentaires.
Puis ça a marché, ça a marché. Puis c'est drôle parce que j'avais jamais vu ça quasiment sur Internet. J'avais exactement autant de likes que de shares.
Ah ouais, hein?
Donc, plus la vidéo montait, j'avais 2000 likes, 2000 shares.
Puis 5000 shares, likes, 5000 shares. C'est ça qui...
Puis là, il est rendu à 50 000 likes, 40 000 shares. C'est comme... Fou. Normalement, tu sais, le ratio, t'as peut-être, je sais pas, 10% de shares versus likes. Puis là, c'était comme égal.
Ouais.
Fait que ça montait vraiment la viralité. Le monde, c'était shareable. Puis ça s'est retrouvé partout sur Internet. Là.
Moi, ça m'a tellement fait rire parce que quand j'ai vu ça, j'étais au Colorado. Une semaine dans le fond. Puis je venais juste de, tu sais ce que tu dis de comme, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, je me suis mis à parler à voix haute, genre. J'étais en train de courir, puis là j'étais en trail, puis là je suis arrivé sur une trail où est-ce qu'il était pas encore déneigé.
Ouais.
Puis qu'il y avait encore de la neige jusqu'aux genoux, mais c'était de la neige qui était encore dure. Fait que tu peux être par-dessus. Ouais. Mais des fois, ça cale. Puis là, je courais, puis là, après un genre d'une heure et quart dans ça, je me suis mis à vraiment en avoir plein le cul, là. Tu sais, pourquoi je suis monté ici, genre? Pourquoi je... Là, fallait que je redescende, là.
Ouais.
Puis là, à chaque pas qui calait, je suis... Ah! Tabarnak! Puis j'étais tout seul sur le sommet d'une montagne au Colorado. Je suis... Tabarnak de calice! Pourquoi je suis venu ici? Asti! Puis là, après ça, comme j'ai vraiment compris, là, genre, t'es là, puis t'es à l'effort, puis ça te fait chier, ça te fait mal, ça te pogne dans les bras. C'est tabarnak de calice que c'est, je crissine.
C'est ça le bike des fois, tu te demandes, puis mais au final, j'ai quand même passé une belle journée.
C'est
à la fin du vidéo, là, c'est comme, OK, c'est bon, on est reparti. On est reparti, tu sais, je revais une bonne humeur direct, puis j'ai fini la course. Puis,
c'est drôle quand même que tu dises, genre, les organisateurs de gravel veulent tout le temps que ce soit le plus intense possible. Tu sais, c'est comme, on peut-tu avoir juste une course correct.
Ouais, c'est pas du mountain bike, c'est du gravel, mais c'est ça. Des fois, c'est comme la ligne est où exactement, c'est trop facile, pas assez facile. C'est, ouais, c'est un drôle de monde.
Pour synthétiser, c'est un drôle de monde. Avant de finir, nutrition, parce que c'est le UPK podcast, on parle de nutrition des fois. C'est quoi ta nutrition? Ça ressemble à quoi? T'es-tu plus liquide, solide? Là, je sais que t'es avec Exact Nutrition pour les bars, leurs bars de glucides, leurs bars protéinés.
Exact, partenaire depuis mon tout début. Je travaillais même... Avant, j'étais ambassadeur Lululemon avec Lawrence, qui était aussi ambassadeur Lululemon à la boutique Mylan. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis depuis mes tout débuts dans le cyclisme, Lawrence était toujours là pour moi, pour me fuel my goals.
Ouais, exact.
Puis c'est sûr, j'adore leurs produits. J'utilise autre chose. Je prends pas juste Exact parce que maintenant, j'en mange tellement
que
je change. J'achète des GU, j'achète des SI. Mais parfois, envoyer des autres marques. J'essaie plein d'en faire. Niveau nutrition, sur le bike, je pense que 99% des gens ne mangent pas assez. Ça, c'est un concept que tout coach va dire.
C'est sûr. Surtout c'est... que le bike, tu peux manger parce que tu bouges pas, ton estomac bouge pas. Fait que la digestion se fait mieux qu'à la course, mettons.
Okay, ça, j'avais pas. Ouais.
Okay. Ben, tu sais, parce que quand ton estomac bouge, c'est là souvent que t'as mal au cœur et t'as de la misère à ingérer assez de glucides, mettons. Là.
OK. Mais moi, j'ai appris encore une fois au camp de IF, c'est là que j'ai appris qu'encore une fois, je mangeais pas assez.
Eux autres, ils doivent manger en tabarnak.
Aucun sens. Pour donner un guide, quand on faisait les efforts, les journées d'effort, ta première bouteille, 90 grammes de carbs dans la bouteille. dans ta première bouteille de 500 ml.
Ouais, dans ta première bouteille, tu vas chercher déjà 90 grammes.
Puis la deuxième avait 30. Puis souvent, ce qu'ils nous forçaient à faire, c'est qu'on avait comme une heure avant de faire le plus gros effort de la journée, 5 minutes. Fallait que tu ailles fini ta bouteille de 90 dans la première heure plus un gel. Donc là, tu es à 120 grammes à l'heure.
Le maximum que tu peux ingérer.
Exactement. Puis depuis que j'ai appris.
Ça passe bien.
Ça passe bien. Puis ça s'entraîne aussi. Tout le monde le sait, ça s'entraîne. Puis vraiment, je le vois. Je pense à la course il y a deux semaines, l'Enfer des Patriotes, une des courses sur route les plus difficiles au Québec, parce qu'il y avait des secteurs de. C'est une course sur route, mais il y avait à peu près 13 secteurs de off-road, gravel, de 0,3 quarts.
Avec ton bike sur bike de route.
Puis ça a super bien été. Puis c'est que j'ai réalisé à la fin, je pense que j'ai pris. J'ai gardé 110 grammes à l'heure. J'ai fini la course de 2 heures. J'ai pris 9 gels, puis j'avais des carbs en bouteille. T'sais. C'était vraiment aux 15 minutes. Dès que je finissais un secteur, c'était
c'est ça.
Suite. Puis dès que tu restes on top of it, pour moi, étant peut-être un... Je brûle beaucoup de glucides. Étant peut-être une fibre musculaire plus, plus en force et moins en endurance, je brûle peut-être beaucoup plus de glucides. Puis j'ai réalisé que plus j'en prends, plus je performe.
Pas le choix.
J'ai pas le choix. Je suis une machine. Je dois brûler vraiment. Là. Puis avec, comme David, on l'a vu, avec le lactate, je brûle. Puis ma courbe de glucides par minute, où il y avait une courbe là, qui donne dans son rapport. Ouais. Puis ça m'a vraiment donné un insight comme « wow, j'en brûle plus. »
C'est juste sur ça que tu fonctionnes. Tu sais, mettons, dépasser là, le premier seuil, t'es quasiment juste sur des glucides.
Ouais.
Le monde, il sous-estime vraiment ça. Là.
Ouais. Puis dans bouteille, oui, je suis rendu un gros fan de Drink Mix.
Ouais.
T'sais, c'est sûr que j'ai des façons des fois un peu plus budget aussi parce que ça peut coûter cher. Fait que des fois, tu peux pas tout le temps prendre avoir du race fuel pour tous les entraînements. Parce que quand tu roules 5 fois semaine, 400 kilos de bike par semaine, il y a juste du maltodextrine des fois. Comme on a most budget, une scoop de maltodextrine. Au lieu d'avoir juste de l'eau, c'est du maltodextrine avec. Puis sinon, comme ton produit, là, Upika, que j'ai très hâte d'essayer d'ailleurs. Puis ça, c'est comme, tu sais, je garde ces produits-là souvent plus pour race day ou pour les gros entraînements parce que ça fait une bonne différence, là, les additifs. Là, soit la caféine direct dedans, soit les électrolytes. Mais oui, boire juste de l'eau,
t'es pas en performance.
T'es pas en performance. Puis il faut manger tout en plus qu'on pense. Puis souvent aussi, peut-être que faut que tu manges pour ton lendemain.
Ouais, exact.
Ce que le monde oublie. Fait que souvent, comme.
Ça fait. C'est, moi, ma nutrition, pendant mes efforts, même quand je fais des 1 heure, tu sais, évidemment, Upika, c'est ma compagnie, fait que je le paye pas cher, mon drink mix à moi, là, tu sais. Même quand je vais faire 1 heure, je le prends.
Ben oui.
Pas parce que j'ai plus d'énergie après 45 minutes, mais parce que le lendemain, l'impact est quasiment aussi grand quand tu vides pas tes réserves de glycogène pour le lendemain, pour ta récupération.
Tu veux les remplir avant, pendant et après.
Exact.
Pour le après, je suis quand même un gros fan de la protéine. Souvent, une règle de... Ma règle de base personnelle que j'ai découvert qui marche, c'est par tranche de 50 km de vélo dans une ride, c'est une scoop de protéine direct après. Mm-hmm. Donc, si je fais un 100, 2 scoops dans un... Si je fais 150, 3 scoops. Ça, c'était à IF aussi, que j'ai appris, qui ont donné ça comme truc, puis ça marche super bien. Parce que encore une fois, il faut que tu fuel pour le lendemain.
Exact.
Puis si tu veux performer longtemps dans ton année, faut que tu manges. Puis si tu veux performer, il faut que tu manges.
J'écoutais Lance Armstrong qui parlait de... Tu sais, ils ont leur podcast qui s'appelle... De Move.
Ouais.
The Move Podcast, qui parle pendant pendant toutes les courses, puis ils font des... Surtout pendant le Tour de France, là. Puis lui, il parlait de quand il était sur le Tour de France, dans le fond. Il disait, de la seconde que tu finis jusqu'au moment où est-ce que tu dors, chaque moment libre est à manger. Genre.
Ouais.
Tu veux juste manger. Tu manges des carbs, man, non-stop pendant 3 semaines. C'est juste ça que tu fais, tu sais.
Ah oui, c'est fou. Le monde, c'est ça. Le monde mange pas assez, généralement. Puis, c'est ça. Plus que vous pouvez.
Exact.
Je pense que c'est... Qui m'avait dit ça, c'est un coach, il dit, il a jamais vu quelqu'un qui mange trop.
Ouais. Ben, David Yecker, il est en train de tester ça, justement, là, tu sais, puis je veux le recevoir pour venir parler de ça, c'est la disponibilité énergétique, puis lui, ce qu'il explique, c'est que plus tu manges, puis il y a comme un seuil de où est-ce que, de ce que tu devrais viser en termes de carbs pour manger, puis c'est d'habituer ton corps à en brûler autant.
Mm-hmm.
Fait que le monde pense que tu vas prendre du poids, mais non, tu prendras pas de poids. Même si tu vas viser ce seuil-là qui est comme... Lui, j'ai hâte qu'il vienne m'en parler parce qu'il semblait me dire que c'était plus que tu penses. Là.
Ouais.
Tu penses qu'il y a une limite qui est vraiment plus haute. Puis si tu manges ça, ben ton corps s'habitue à aller brûler ça, puis tu prendras pas, tu vas rester à poids égal, mettons. Sauf que tu vas avoir calissement plus d'énergie pour faire ton sport. Là,
c'est vraiment
ton
entraînement. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. C'est le genre de recherche là, qui est fun à avoir les résultats. Puis au final, comme tu as mentionné, il y a beaucoup de monde qui ont peur de prendre du poids. T'sais, on dit qu'ils vont faire du vélo pour perdre du poids.
Ouais.
Là, c'est
le fameux watt par kilogramme aussi. Là.
C'est ça. T'sais, autant au niveau amateur, on dit quelqu'un qui veut juste pratiquer le vélo, puis il va partir pour 75 kilos avec une petite barre, je sais pas moi, une Valmorin.
Ouais.
Ou, t'sais, c'est pas assez.
Ouais, c'est pas assez.
Parce que tu vas bunker, puis là, si tu bunk, ben là, tu vas être fatigué pour le reste des prochains jours, puis tu vas juste comme, c'est une pente descendante, puis tu vas pas pouvoir perdre le poids que tu veux parce que t'es pas capable de performer.
Exactement, c'est ça.
Fait que c'est...
Ouais. Très cool, man. Merci beaucoup du temps. C'était super intéressant. Puis on va te recevoir encore, c'est sûr.
N'importe quel.
Ça va te tenter.
Ben oui, en premier, on ira rouler en bike. Là,
oui, aussitôt que j'ai mon bike. Ouais.
Mais t'as ton bike, tu m'écris, on se fera un petit... on va te montrer comment ça avance en vélo.
Excellent. Parfait, merci, man.
Merci, Pierre.
Yes.